Les archives d'Afrique, Alain Foucault.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Vous savez, ici, quand on massacre, il y a en général très peu de rescapés, quoi. La méthode rwandaise est des plus efficaces, quoi. Ce qui est sûr, c'est que depuis donc mercredi soir, c'est l'enfer ici parce qu'on n'arrête pas d'avoir un peu de coups de fil venant des quartiers de Tutsi qu'on connaît ou de gens qu'on connaît qui disent voilà, bon, ben, encore un de moins de gens qu'on connaît.
En ce début du mois d'avril 1994, le Rwanda est le théâtre de massacres, de tueries d'une exceptionnelle violence. L'attentat sur l'avion du président Juvénal Habyarimana a déclenché une machine infernale que personne ne parvient à arrêter pour l'instant. Pas même la MINUAR, la mission d'assistance des Nations Unies pour le Rwanda. Elle semble dépassée. Et les regards sont tournés vers la tour de verre de New York qui hésite. Que fait Kofi Annan, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix? Pourquoi ne parvient-il pas à mettre un terme à ces tueries? Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Kofi Annan.
Je pense qu'à l'époque, l'armée de maintien de la paix était bien plus grande que la plupart des armées. Mais notre difficulté était que nous n'avions pas d'armée permanente. C'est lorsque les crises éclataient que nous nous tournions vers les gouvernements pour les supplier de nous donner des troupes. Quand j'étais à New York, je disais que notre façon de gérer les opérations de maintien de la paix revenait à dire au maire de Londres, de New York ou de Marrakech: il y a parfois des incendies, mais il nous faut attendre qu'un incendie se déclare pour construire une caserne de pompiers.
En ce mois d'avril 1994, le Rwanda a définitivement basculé dans la violence. La tension et les affrontements qui régnaient depuis plusieurs mois, empêchant l'installation du gouvernement de transition à base élargie préconisé par les accords d'Arusha, se sont transformés en tuerie de masse après l'attentat qui a coûté la vie au président Juvénal Habyarimana, à son homologue Cyprien Ntaryamira du Burundi et à quelques-uns de leurs collaborateurs. Désormais, plus rien n'arrête les tueurs, les extrémistes hutus qui assassinent froidement femmes et enfants, vieillards et militants tutsis. Pas même la force des Nations Unies, la MINUAR, qui était censée accompagner les protagonistes dans la mise en place des accords et qui semble totalement dépassée par les événements. 10 d'entre eux, des parabelges, ont même carrément été assassinés. Kofi Annan, à ce moment-là, est le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix.
Un accord avait été signé entre les rebelles et le gouvernement. Mais lorsque l'avion a été abattu, plus rien n'allait. Un de nos généraux nous a averti que quelqu'un était allé le voir pour lui annoncer qu'il y avait peut-être un plan pour exterminer les Hutus, les Tutsis, et qu'il avait connaissance qu'une cache contenait au moins 135 armes. À l'époque, il était évident que les gouvernements n'allaient pas octroyer de troupes supplémentaires. Il y avait peu d'hommes, environ 500-600 soldats. Il n'avait pas les ressources nécessaires pour un affrontement direct. Nous lui avons donc dit de demander aux ambassadeurs américains, français et belges sur place d'aller ensemble demander audience avec le président et de lui dire que nous savions ce qui se préparait et qui, s'il osait aller de l'avant avec ses plans, il serait tenu responsable des conséquences. En temps normal, ce genre de pression suffit. Et c'est d'ailleurs la seule arme que nous ayons réellement à notre disposition. Nous ne voulions surtout pas voir se répéter les effondrements que nous avions connus en Somalie. Lorsque les violences ont commencé et se sont intensifiées au Rwanda, 10 soldats belges ont été tués et le contingent belge s'est retiré. Les Sri Lankais ont alors reçu pour instruction d'assurer eux-mêmes leur protection. Dallaire avait donc un demi-bataillon ghanéen, environ 205 hommes, pour maintenir la paix dans tout le pays.
Plus rien donc ne s'oppose sur le moment au groupe qui massacre tout ce qui est Tutsi sur leur chemin. Ce n'est pas le colonel Bagosora qui, profitant de la vacance du pouvoir, a pris les rênes du pays qui va contrarier ce macabre projet. On tue sans discernement. Et ces violences vont aller s'amplifiant. Elles sont ciblées, ethniques. Georges d'Allemagne de Médecins Sans Frontières.
Cette nuit, à Kigali, des éléments armés en uniforme sont entrés de force dans les résidences de plusieurs organisations humanitaires, rassembler le personnel de maison et ont abattu ce personnel de maison froidement devant les expatriés, devant notre personnel.
Alors qui est responsable de ces assassinats ?
Difficile à dire, nous pensons que c'est probablement des éléments de la garde présidentielle, d'après les informations que nous avons pu obtenir de notre équipe.
Comment expliquez-vous qu'ils aient commis ce massacre ?
Je pense que ces massacres ont été commis essentiellement parce que, pour des raisons ethniques, le personnel de maison était en partie ou parfois à majorité Tutsi, et donc ces personnes ont été, semble-t-il, abattues uniquement en raison de leur appartenance ethnique.
Devant ces tueries, les forces des Nations Unies s'abstiennent d'intervenir, d'apporter leur protection à ces Tutsis qui sont pourchassés et assassinés dans les conditions les plus barbares, à la machette et à toutes les armes blanches. Colonel Luc Marshall, commandant du secteur Kigali de la MINUAR, la mission des Nations Unies d'assistance au Rwanda.
C'est vrai qu'il y avait une certaine responsabilité par rapport à une situation d'urgence, de gens qui sont menacés de mort, mais la structure n'existait pas et nous n'étions pas en mesure d'assurer une réelle protection, malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle, et je crois que c'est dans une logique la plus raisonnable, que notre première priorité était de regrouper l'ensemble des moyens pour, à partir de là, créer des zones refuges, mais qui, celles-là, permettraient aux réfugiés de jouir d'une certaine protection.
À travers le pays, désormais, on massacre les populations Tutsi et certains Hutus dits modérés. Désiré Genza Ayo, l'un des génocidaires, raconte.
Après la mort du président Habyarimana, c'était le 6 avril, à partir du 7, 8, 9, les Tutsis ont plié le bagage. Alors ils se sont regroupés dans des paroisses ou à côté des maisons communales ou dans des écoles. Le 9 avril, nous avons été convoqués par le préfet de préfecture, Agi Kongoro, Laurent Bichiwaruta. Alors on nous a demandé de commencer à tenir des rondes partout et à demander à la population de veiller à ce que les Inyenzi ne puissent pas s'introduire dans nos communes.
David, un autre génocidaire.
Les autorités de l'époque nous ont poussés à tuer les Tutsis. Ça s'est passé comme ça. En avril, nous étions un groupe de paysans. Un jour, nous nous sommes rendus vers la colline de Zega. La colline de Zega, c'était là que s'était regroupé un grand nombre de Tutsis. Et nous les avons tués.
Avril 1994, alors que les tueries gagnent le pays, le Conseil de sécurité prend la décision de réduire la MINUAR à un strict minimum. Cette force de maintien de la paix passe de 2500 hommes à 250 et a pour but de servir d'intermédiaire entre les deux parties. Ses possibilités de secours humanitaire ou de protection des populations sont presque nulles. La communauté internationale est manifestement dépassée. Kofi Annan, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, est impuissant.
C'est très difficile de gérer des conflits dès que c'est éclaté. Le plus important, c'est de
tout faire dans la prévention.
Prévention, c'est le plus important. Mais pour pouvoir agir rapidement, il faut des moyens. Or, l'ONU n'a pas une armée.
Les casques bleus.
C'est ça, les casques bleus, mais les casques bleus ne sont pas des troupes onusiennes. Nous sommes obligés de demander aux États membres de nous donner des troupes. Et donc, normalement, pour monter une opération de maintien de la paix, il faut 3-4 mois pour avoir des troupes.
Il faut dire que dès la chute de l'avion, les forces du FPR, la rébellion, massées le long de la frontière ougandaise, ont aussitôt fait mouvement vers l'intérieur du pays et se battent désormais rapidement pour chasser les génocidaires. Mais jusque-là, pas de protection directe pour les populations Tutsi.
Mais le motif donné par le FPR le 7 l'après-midi pour la reprise des hostilités à Kigali, c'était de mettre un terme au massacre des Tutsis. Ça, c'était leur justification pour reprendre les hostilités dans la capitale. Et le général Dallaire leur a bien dit, attention, là vous allez porter une lourde responsabilité, parce que si vous reprenez les hostilités, c'est vous qui serez responsable de la reprise de la guerre. La négociation n'était même pas terminée, que le bataillon FPR est sorti de ses positions, a attaqué le camp de gendarmerie de Katshirou, le camp de la guerre présidentielle. Eh bien, pendant tout le temps où je suis encore resté au Rwanda, à aucun moment le FPR n'a pris des mesures pour protéger les Tutsis. Ça, c'est une chose. Toutes les propositions de cesser le feu, qu'elles aient été émises par la MINUAR ou par la partie gouvernementale, ont fait l'objet d'une fin de non-recevoir ou restèrent sans réponse. Le 12 avril, 10 officiers des forces armées, des officiers supérieurs, ont envoyé un manifeste, donc une demande directe au FPR pour demander un cessez-le-feu immédiat et d'unir leurs forces pour mettre un terme au massacre. Le FPR n'a même pas répondu à cette demande de cessez-le-feu et de coopération pour arrêter les massacres.
En Europe, on s'imagine des combats au canon, on s'imagine des combats au fusil. Ici, il faut oublier ça. C'est un combat en silence, c'est un combat à la machette, mais les dégâts sont incroyables. C'est-à-dire, on coupe, on découpe, on mutile les gens et les cadavres jonchent les sols. Vous pouvez en voir qui ont encore des soubresauts de vie dans la rue parce qu'ils ne sont pas complètement achevés, mais c'est une boucherie, c'est simplement un abattoir.
Ce terme d'abattoir du délégué du FIDH n'est pas trop fort. C'est par centaines de milliers que l'on tue les populations tutsies. Dès l'annonce de l'attentat, les massacres ont commencé. La radio des Mille Collines s'est visiblement faite l'écho d'un plan qui existait déjà. Et les tueries se sont généralisées. Les Nations Unies apparaissent totalement dépassées, impuissantes, et leur préoccupation après l'assassinat des 10 casques bleus belges est à cet instant l'évacuation au plus vite des Belges, civils et militaires qui se trouvent encore au Rwanda. Même les 350 000 réfugiés burundais pour lesquels quelques jours plus tôt elle lançait un appel pathétique à l'aide vont être abandonnés à eux-mêmes. Évidemment, ils vont aller grossir les rangs des génocidaires, des tueurs de Butare. André Guichawa, universitaire et témoin expert du TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda.
Quand les massacres ont démarré dans la commune, dans la préfecture de Butare, ce sont les réfugiés burundais qui ont joué un rôle déterminant dans la mise en route du processus de massacre. Le deuxième élément qui est à mon avis aussi déterminant, c'est que c'est à partir de cette date que la radio Mille Collines a trouvé, si l'on peut dire, pour la première fois les voies et moyens de convaincre comme un média moderne. C'est-à-dire que les radios d'État n'avaient jamais fait ça, ça n'existait pas, des témoignages sur le vif, hein, et la RTLM, la fameuse radio-télévision des Mille Collines, a commencé à faire du direct. Et c'était du direct dans les camps de réfugiés du nord à la limite de Kigali pour les gens qui avaient été chassés par le FPR et au Burundi ils ont retransmis les exactions de l'armée au jour le jour et ça a joué énormément, ça se faisait en direct, les populations n'avaient jamais été habituées à ce genre de pratiques médiatiques et ça a produit des effets absolument redoutable.
Le 22 mai 1994, les rebelles du FPR, après une fulgurante avancée, prennent le contrôle de l'aéroport international de Kigali. Rapidement, ils vont se rendre maîtres de la ville de Gitarama. La contre-offensive s'organise. C'est par milliers que les populations fuient devant ces forces qui pourchassent les génocidaires. Les phares, les forces armées rwandaises, la garde présidentielle et les autorités qui ont installé un gouvernement provisoire se sont enfuis, se sont réfugiés aux Zaïre voisins. Le 22 juin, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise la France à mener une opération militaire pour protéger les populations civiles. C'est l'opération Turquoise.
Je voudrais exprimer ma gratitude au gouvernement français pour cette initiative extrêmement courageuse. Cette initiative humanitaire de diriger une force multinationale pendant une période intérimaire au Rwanda, jusqu'au moment où nous aurons l'occasion de terminer la composition des forces des Nations Unies et où les Nations Unies pourront prendre la relève de cette force multinationale.
Le FPR, le Front Patriotique Rwandais, qui gagne du terrain et qui se méfie de la France, s'oppose à cette intervention qu'elle ne trouve pas nécessaire. Elle lui paraît suspecte. Il lui reproche d'avoir un parti pris et de n'intervenir qu'au moment où le pire a été commis.
Les soldats français au Rwanda, c'était en 1990 pour évacuer les étrangers pendant l'offensive du Front Patriotique rwandais. Ces hommes sont pourtant restés à la demande du président Habyarimana. Deux ans plus tard, ils seront même 700 et ne partiront qu'en 93 après les accords de paix. Mais entre-temps, l'offensive du FPR a pu être contenue par l'armée gouvernementale formée par des instructeurs français. Il existe des accords de coopération militaire avec le Rwanda depuis 63 et depuis 70, jusqu'en avril dernier, une mission d'assistance à l'armée rwandaise était présente à Kigali. La France a toujours maintenu de bonnes relations avec le président Habyarimana, dont les forces armées ont été accusées à plusieurs reprises d'avoir organisé des massacres parmi les populations Tutsi, surtout dans les années 90. L'Élysée a justifié dimanche le soutien au régime du président Habyarimana en écrivant qu'il fallait empêcher une solution militaire de dominer au Rwanda et contenir l'offensive du FPR. Mais les faits sont là, la France est considérée comme partisane dans ce conflit. En avril dernier, elle a dû promettre à l'opposition rwandaise qu'elle pénétrait dans le pays uniquement pour sortir les étrangers, pris au piège de la guerre civile, et qu'elle se retirait ensuite. Ne restait alors au Rwanda que quelques 5000 hommes de la Force des Nations Unies, la MINUAR, dont la plupart ont aujourd'hui quitté le pays. Un soldat de l'ONU déchirait même de rage son béret. Les massacres allaient continuer.
Général Jean-Claude Lafourcade, commandant de l'opération turquoise.
C'est M. Juppé qui avait le premier qualifié de génocide au mois de mai les massacres au Rwanda. Et puis le président Mitterrand a estimé que c'était du devoir de la France d'intervenir au Rwanda. C'est l'opération turquoise qui s'est développée sous mandat de l'ONU avec la mission d'arrêter les massacres, de protéger les populations. Sur une durée limitée de 2 mois, qui voulait bien dire que la France n'avait pas du tout l'intention de rester au Rwanda. Elle voulait simplement arrêter les massacres et permettre la mise en place de l'aide humanitaire.
Mais pourquoi avoir attendu 2 mois pour intervenir? Pourquoi si tard après tant de centaines de milliers de morts?
Alors là, je vous renvoie la balle. Je renvoie la balle vers les grandes puissances. La France y est allée quand même, finalement.
Oui, mais 2 mois plus tard.
Au début, pourquoi l'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Canada, Israël et les autres, pourquoi ils sont pas venus? Pourquoi? Alors on rejette la faute sur la France, vous êtes arrivés trop tard. Moi je vous renvoie la balle, dites-leur aux autres grandes puissances, pourquoi vous n'êtes pas intervenus?
Devant la montée des critiques, devant l'indignation de la communauté internationale, c'est le monde entier qui s'interroge sur le rôle des Nations Unies. Pourquoi ne sont-elles pas intervenues après avoir échoué à maintenir la paix? Boutros Boutros-Ghali, le secrétaire général de l'ONU.
La majorité Tutsi ne représente que 10%. Donc, vous, avec votre interprétation un peu simpliste de la démocratie, c'est un pays démocrate, c'est un régime démocrate. Et qui vient? Ce sont des anciens Tutsi qui ont quitté le pays il y a de cela 2 générations, qui, appuyés par un gouvernement étranger, viennent attaquer un gouvernement légitime. Donc vous avez la majorité des membres du Conseil de sécurité sont en faveur de ce gouvernement.
Le décor est planté. On perçoit cette guerre comme un affrontement entre un gouvernement légal et des rebelles qui essaient de conquérir le pouvoir. Et c'est le patron de Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, qui exprime le sentiment qui dominait au sein du Conseil de sécurité. Mais ceci n'est que le début d'une polémique qui va éclabousser l'image plutôt propre de Kofi Annan, qui était le chef en charge du maintien de la paix au Rwanda. On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Kofi Annan. Pourquoi l'Africain de l'ONU n'est-il pas parvenu à anticiper sur ce génocide, malgré les alertes envoyées par le général en place à Kigali? On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. Restez à l'écoute.
Archives d'Afrique, à la FOCA.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Faux.
Pour moi, en tant que membre du département du maintien de la paix, et en tant qu'Africain venant du continent, le fait de ne pas avoir fait quelque chose pour aider, je ne dirais pas que nous avons accepté la situation, mais nous avons échoué.
Assurément, puisque la MINUAR, la mission des Nations Unies d'assistance au Rwanda, n'a pas pu empêcher le génocide qui se déroule en cette année 1994 dans tout le pays. En tant que secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Kofi Annan, qui parle, semble dépassé par le déferlement de violence. Il n'a pas pu intervenir. Au contraire, les troupes des différents pays se sont retirées, ont quitté le territoire en proie aux violences. Dans les mois qui suivent, le Front patriotique rwandais parvient progressivement à stopper les tueries dans les villes qu'il a conquises. Il engage une violente contre-offensive. La peur a changé de camp. Ce ne sont plus les Tutsis qui fuient devant les génocidaires du phare. Ce sont les Hutus qui ont désormais à craindre de cette armée bien organisée qui vole de victoire en victoire. Et leur vengeance est froide. Ils ne font pas de quartier. Jean-Marie Michombero, ancien membre du FPR, il était à cette période au camp du CND à Kigali.
Quelques cas où il faut des services de précision. Moi, j'aurais des difficultés pour dire que le FPR a fait cette campagne. La campagne a été faite par l'APR, qui était une branche armée du FPR. C'est une responsabilité où il faut être prudent et ne pas prendre ces politiciens qui se sont beaucoup plus opposés à cette politique agressive. Certains ne sont même plus dans le système. Ils ne doivent pas porter cette responsabilité. Elle doit être portée par les leaders stratégiques.
Il faut bien faire le distinguo. Oui, oui, le FPR avait une partie politique et avait une partie militaire qui s'appelait l'APR.
C'est cet APR à qui il faut poser cette question. L'APR aussi était dirigé par le président Kagame. C'est vrai que l'Est du Congo devenait un danger pour le Rwanda. Toute une force armée s'organisait, et c'est évident. Mais en tant que militaire, je me dis qu'une telle campagne serait opportune si elle s'attaquait exclusivement à ce danger militaire. Mais ce qu'on a vu est différent de ça. On a vu la première attaque contre les camps de Kibeho. C'était un camp qui était habité majoritairement par les civils, sous protection du HCR. L'armée sous le commandement de M. Kagame est entrée dans le camp. Il y a eu des exactions, des assassinats. La conséquence est que, pour le cas de Kibeho, il y a eu un certain colonel à l'époque, maintenant il est général, Ibingira, qui a été poursuivi pour ça, mais il n'a jamais été condamné pour ces actes d'atrocité qu'il y a eu.
Gérard Gaïma, ancien procureur général du Rwanda, pressenti à cette époque pour être ministre de la Justice du gouvernement de transition à base élargie.
Depuis que le FPR a gagné, la question de la responsabilité de son armée, on ne peut pas en parler publiquement au Rwanda. Si vous essayez de débattre de cette question, vous irez en prison comme Madame Ingabire, ou vous serez tué. Donc la question de cette violence commise envers la communauté Hutu est l'un des gros problèmes auxquels on doit faire face aujourd'hui. Donc ma connaissance et mon point de vue personnel est qu'il n'y a pas de doute sur ce qui s'est passé, qu'il y a eu des atrocités commises contre les Hutus au Rwanda et aussi au Congo. Et cette violence était considérable.
Juillet 1994, après plusieurs mois de violence, de crimes, d'assassinats, le Front patriotique rwandais FPR a pris le contrôle du pays. On compte plus d'un million de morts, majoritairement Tutsis, avec près de 4 millions de déplacés dans des camps de réfugiés au Zaïre du maréchal Mobutu, qui a finalement ouvert sa frontière avec le Rwanda sous la pression internationale. Le FPR déclare la fin de la guerre. Le monde entier découvre un peu plus l'horreur qui a eu lieu dans le pays. Pourchassés par le FPR, les génocidaires ont trouvé refuge au Zaïre voisin. En même temps, des dizaines de milliers de Hutus qui fuyaient devant leur avancée sont parqués dans des camps de fortune où sévit une terrible épidémie de choléra le long de la frontière zaïroise. Le 8 novembre 1994, la résolution 955 du Conseil de sécurité crée le Tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, pour juger les principaux responsables du génocide.
Monsieur Jean Kabanda, il vous est reproché d'être responsable de meurtre et d'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres de la population Tutsi dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe ethnique ou racial comme tel et d'avoir de ce fait commis le crime de génocide. Plaidez-vous coupable ou non coupable?
Je plaide coupable.
Le premier ministre du gouvernement intérimaire, Jean Kabanda, a donc plaidé coupable et a été condamné pour génocide par le TPIR. Les trois quarts du gouvernement intérimaire ont été arrêtés. Plusieurs ministres de ce gouvernement ont été reconnus coupables de participation au génocide. Bien que l'ONU ait décidé de mettre sur pied ce tribunal pour juger les génocidaires, elle ne parvient pas à expliquer pourquoi il y a eu un tel cafouillage dans le maintien de la paix dont elle avait la charge. Surtout que le général Dallaire, qui était le chef des forces sur place, quelque peu bousculé par sa hiérarchie, évoque les ratés dans les opérations. Il met en cause les responsables de la Maison de Verre à New York.
De plus, lorsque je voyais qu'il y avait des armes qui se faisaient illégalement distribuer et je voulais prendre une action offensive à ce moment-là, moi, mes rapports, je les envoyais au Canadien général Barry, du côté militaire. J'avais pas le droit, mais je le faisais parce que du côté civil, il donnait une impression beaucoup moins sérieuse, moins dangereuse. Donc, il y avait deux rapports qui allaient. Et à New York, ce que j'ai su par après, c'est que parce que j'avais pas d'expérience en Afrique, mes rapports étaient diminués comparés à ces rapports. Puis, ultimement, c'est mes rapports qui ont reflété la réalité du terrain.
Une mise en cause de la hiérarchie de New York que le responsable du maintien de la paix n'accepte pas. Kofi Annan.
Romeo Dallaire is a good friend and a very good officer.
Romeo Dallaire est un bon ami et un très bon officier. Lorsqu'il a envoyé ce message à mon conseiller militaire, Romeo Dallaire a également évoqué la possibilité qu'il s'agisse d'un piège et qu'il n'avait pas les moyens de le savoir. Peu de temps après, 10 soldats belges ont également été tués. Les États membres n'étaient pas prêts à envoyer plus de troupes. À mon avis, il y a deux Nations Unies. Il y a les États membres qui siègent au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale et qui donnent au secrétaire général ses mandats et les forces dont il a besoin pour exécuter ce mandat. Et puis il y a l'ONU, sous les ordres du secrétaire général, celui qui met en œuvre le programme. Au Rwanda, il était extrêmement difficile de faire bouger les États membres. Tout d'abord, les événements au Rwanda sont arrivés peu après ceux en Somalie. Lorsque les avions américains ont été abattus, les États-Unis se sont retirés de Somalie et tous les pays occidentaux se sont retirés avec eux. Et c'est à peu près à cette époque que le Rwanda, où jusqu'à présent tout le monde s'accordait à dire que tout allait bien, s'est effondré. Et personne ne voulait plus envoyer de troupes, ni même, comme nous l'avions demandé, de renforcer les effectifs sur place.
Cette tragédie qui a fait plus de 800 000 morts va profondément choquer la communauté internationale, mais également les acteurs de la tragédie. Le général Dallaire qui commandait les troupes de la MINUA.
Souvent, j'avais des rêves que les Rwandais qui ont été tués m'appelaient. Et donc, on voyait comme... des esprits qui flottaient puis qui disaient de se joindre à eux pour vivre le futur, je veux dire, spirituel.
Ça, c'était dans vos rêves. Le jour, quand il vous arrive de repenser à cette période-là, quelles sont les images, je pense aux images traumatisantes qui vous reviennent en tête?
Oh, c'est tellement lugubre et envahissant. Mais ces séances-là, ces moments-là, ça a été affecté significativement par le fait que j'ai pas réussi la mission. Et je voyais immédiatement les résultats, les gens qui étaient au bout du téléphone, qui mouraient parce que j'étais pas en mesure de leur fournir de l'aide. Voir les déplacements de milliers de gens dans la pluie. J'ai vu une dame sur le bord de la route avec des milliers de gens qui passaient, qui a donné naissance à un enfant. Et puis, placenta parti, puis elle s'est mise debout, puis a tenté de continuer à marcher. Personne n'a aidé. J'ai vu des enfants avec horreur dans leurs yeux, totalement abandonnés de 2-3 ans. Et c'est pas la peur, c'est l'horreur. L'impossibilité de cet être innocent de pouvoir comprendre l'ampleur qui l'entourait. Puis les gens passaient, puis l'enfant restait là. Et ce sont ces images-là qui reviennent. Comme commandant, j'étais responsable sur le terrain pour tout, que ce soit mes gens, que ce soit les Rwandais, que ce soit les missions. Donc, on peut pas faire pense-pilate à 800 000 personnes qui ont été tuées avec notre présence-là, avec de nos soldats qui ont été tués et martyrisés dans une cause qui, ultimement, a été un désastre monstrueux.
Kofi Annan, mis en cause, souvent interpellé, va s'expliquer sur les responsabilités réelles de l'ONU.
This is a question we asked ourselves.
C'est une question que nous nous sommes posées. Et d'ailleurs, il y a une étude commanditée et partagée par Ingvar Carlsson, l'ancien Premier ministre de Suède. Il en est venu à la conclusion que le manque de volonté politique était l'une des principales raisons de l'échec et de l'incapacité de protéger la population. Mais je pense qu'il faudrait aller plus loin, étant donné la question que vous avez posée. Dans cette situation, il nous faut replacer les choses dans leur contexte et d'expliquer ce qui s'est passé en Somalie. D'une certaine manière, le Rwanda a subi les conséquences de ce qui s'est passé en Somalie. Nous avions retiré nos hommes de la Somalie, où nous avions des milliers de troupes, après le meurtre de plusieurs soldats américains. Et c'est aussi ça le problème, à la fois pour les gouvernements et pour nous. Parce que nous avons donné au public l'impression que les opérations de maintien de la paix sont des opérations sans risque, qu'il ne faut pas s'attendre à des pertes, qu'elles ne sont pas autorisées. Le meurtre des troupes américaines, environ 10 à 12 d'entre elles, a été un épisode très douloureux pour nous tous et a conduit à la dissolution de toute l'opération en Somalie et au retrait de milliers de soldats. Il y a quelques semaines, on a appris que 2000 soldats américains ont été tués en Afghanistan et environ 5000 blessés. Pourtant, les États-Unis sont toujours là et envisagent seulement maintenant de se retirer. Il s'agit d'un effort national, qu'un prestige national est en jeu. Le gouvernement a tendance à rester, à accepter les pertes de vies humaines. Mais s'il s'agit d'une opération des Nations Unies, c'est plus flou. Au moment où un incident mortel se produit, tout le monde veut se retirer parce que nous n'avons pas pris le temps d'expliquer à la population que le maintien de la paix est certes un effort noble, mais comporte des risques. C'est un gros problème qui, selon moi, concerne à la fois les États membres et le secrétariat. Quoi qu'il en soit, alors que nous nous retirions à cause des pertes, nous nous trouvions alors dans une autre situation qui pourrait être pire que la Somalie, encore plus risquée pour les troupes. Les gouvernements qui s'étaient retirés de la Somalie n'étaient pas pressés de se lancer dans une autre aventure. Aussi, à l'époque, le secrétariat des Nations Unies n'utilisait pas vraiment les médias. En fait, le secrétaire général Boutros était le seul à parler à la presse. La plupart d'entre nous ne parlions pas aux médias. Nous aurions peut-être dû utiliser la presse pour sensibiliser l'opinion publique, faire connaître la situation et impliquer la société civile dans le massacre ou le génocide imminent au Rwanda. Mais même si nous avions agi de la sorte, je ne suis pas sûr, étant donné l'ambiance qui régnait dans les jours qui ont suivi les événements en Somalie, que les gouvernements auraient été disposés à engager de nouvelles troupes. La nature du complot était si vaste que je pense qu'aucun de nous, du moins au début, ne pensait que ce qui se passait au Rwanda se passait dans tout le pays. On avait tort.
Après ce génocide, c'est toute la maison de verre qui est dans la tourmente. Boutros Boutros-Ghali, lui, qui aspire à un second mandat, se méfie malgré tout de plus en plus de cet Africain qui a fait toute sa carrière dans la maison et qui semble très apprécié des différents diplomates et gouvernements occidentaux. Il le voit de plus en plus comme une menace à sa réélection. Surtout qu'avec les Américains, ce n'est pas le grand amour. En novembre 1995, après l'accord de paix de Dayton, qui a mis un terme à la guerre en Bosnie-Herzégovine, Kofi Annan est nommé représentant spécial du secrétaire général pour l'ex-Yougoslavie. Sa mission est de superviser à cette occasion la transition de la force de protection des Nations Unies, FORPRONU, à une force multinationale de mise en œuvre de la paix, IFOR, sous la direction de l'Organisation du Traité Atlantique Nord, l'OTAN. Une mesure d'éloignement qui a pour but de l'écarter de la potentielle course au fauteuil de secrétaire général de l'ONU. Ahmedou Ould Abdallah, diplomate, ancien ministre des Affaires étrangères de Mauritanie, ami de longue date de Kofi Annan.
Boutros Ghali est venu aux Nations Unies sans expérience dans le système international. Bien sûr, il a été sous-secrétaire d'État ou sous-ministre pour les questions africaines de son pays, l'Égypte, mais est un bon diplomate, disons un intellectuel, un écrivain qui venait souvent en France. Mm-hmm. Mais les Nations Unies, il n'avait pas une très grande expérience. Il venait de temps à autre. Et quand il a été nommé secrétaire général, je pense qu'il avait les capacités intellectuelles naturellement, et surtout il s'est appuyé beaucoup sur les Américains, comme il n'était pas très chaud au début pour son élection, donc il a pris comme speech writer un Américain qui était le speech writer du département d'État. Mmh. Et alors, sa gestion, il voyait souvent, et ce n'est pas une critique, c'est plutôt un problème, à mon avis, de sa génération et de sa culture de l'époque. Pour lui, les collègues sont des collaborateurs ou des gens qui doivent travailler sur ordre.
Mmh. Il est regardé en supérieur, quoi.
Oui, c'est ce qu'il voyait et c'est ce qu'il comprenait. Or, nous étions en Amérique où la hiérarchie est connue, mais on n'a pas besoin. Et surtout, il est recommandé de la démontrer. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance en soi. Deuxièmement, la gestion est transparente. Vous ne pouvez pas dire ma secrétaire, vous dites mon assistante, mes collègues, pas mes collaborateurs ou mes adjoints. Donc, il y avait un problème de culture administrative. Ensuite, Kofi Annan avait beaucoup de réseaux à l'intérieur de la maison, comme il était chef du personnel pendant longtemps, et qu'il était très amical, et il avait d'excellentes relations avec la communauté diplomatique. Alors, ça n'a pas bien marché, surtout que des rumeurs disaient que Kofi Annan pouvait être un bon candidat au poste de secrétaire général avant même le second mandat de Boutros Ghali. En conséquence, Boutros Ghali voulait le faire partir de New York.
Il l'a fait partir de New York.
Et effectivement, il l'a fait partir de New York. Il l'a nommé dans l'ancienne Yougoslavie. Et je me souviens, j'étais à l'époque au Burundi. De passage à New York, Kofi Annan m'a dit, mais tu ne connais pas la bénédiction que je viens d'avoir. Si je suis resté longtemps à New York, voilà ma chance. Je vais aller sur le terrain. Et j'ai été, il m'a dit, et tous les mois, j'ai des rencontres avec les ministres de la Défense ou des Affaires étrangères des pays européens. Je vois des militaires, des ministres de cultures différentes. J'ai élargi mon champ d'expérience et de connaissances. Ah. Il ne disait pas qu'il allait être candidat, mais après, j'ai compris que
c'était un projet déjà.
C'était un projet déjà et que Dieu lui a ouvert un peu la voix.
C'est vrai que le discret Ghanéen sent son heure de gloire venir. Il se sent de plus en plus prêt malgré le fait qu'on l'ait éloigné de New York. Mais comment peut-il faire le poids face à Boutros Ghali qui reste le candidat de la France et de toutes les nations africaines? On en parle la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Kofi Annan. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur archivesdafrique.com. Ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également continuer de réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Kofi Annan. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.